La mission évangélique Vase d'honneur a le plaisir de vous présenter le message du pasteur Mohamed Sanogo, premier responsable de l'église. Nous vous souhaitons un agréable moment à l'écoute de la parole.
Nous voulons élever la majesté par nos voix, demander au Seigneur de nous conduire dans sa parole. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous te donnons la gloire. Tu es glorieux, tu es puissant, tu es extraordinaire, tu es excellent. Que ton nom soit glorifié. Merci de cet honneur, de ce privilège, Seigneur, que tu nous donnes à nous tenir devant toi pour élever, célébrer et magnifier ton nom. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. On peut encore acclamer le roi de gloire. Merci Seigneur pour ce moment. Merci Seigneur pour ces merveilleux instants. Nous sommes privilégiés de le célébrer, de l'adorer, de l'élever. Alléluia. Alléluia. Le message que nous sommes en train de partager déjà depuis quelques dimanches va par la grâce de Dieu nous donner de mieux l'adorer, de mieux le célébrer. Nous parlerons, peut-être Dieu le permettant même aujourd'hui, de cette dimension de l'adoration. Alléluia, c'est une dimension de l'adoration. Combien de fois elle est utile, nécessaire pour nous donner, pour nous permettre de voir véritablement la gloire de Dieu. Dis avec moi la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Alors, le thème de notre série que nous venons de commencer, c'est comment devenir, je vous laisse terminer, intime de Dieu. Est-ce qu'on a envie d'être des intimes de Dieu? Amen. Sérieusement, hein? Alléluia. Alléluia. Comment est-ce que nous pouvons devenir des intimes de Dieu? Nous avons commencé notre enseignement en expliquant d'abord pourquoi c'est si important de devenir des intimes de Dieu. J'ai cité environ 5 raisons. Amen. Obligé de 4, après j'ai cité 5 raisons à peu près pour lesquelles nous devons devenir, nous devons chercher véritablement à être des amis de Dieu. Tout le monde, on a appris aussi que tout le monde n'est pas ami de Dieu. Donc après avoir défini, présenté l'importance de l'amitié, de l'intimité de Dieu, nous avons révélé encore 4 choses, nous avons dit 4 choses à savoir sur l'amitié. Et on a vu que on a compris le sens de l'amitié. Alléluia, de l'intimité. Amen. L'intimité, celui qui est ton intime, réel, profond, c'est celui à qui tu peux révéler toutes choses, toutes choses. Et on a compris que le fait que nous soyons chrétiens ne nous fait pas de facto ami de Dieu. Alléluia. Comme un enfant n'est pas forcément l'ami de son père ou de sa mère. C'est son attitude vis-à-vis de ses parents. D'abord, le fait qu'il soit mature. Alléluia. Voilà, parce que tant qu'il est un enfant, il est pris en charge par ses parents s'occupent de lui. Mais lorsqu'il sera capable de comprendre les choses comme papa ou comme maman, de pouvoir causer avec papa et maman sur tous les sujets de la vie, si aussi, en plus de sa maturité, il a développé un intérêt particulier pour ses parents, amen, ses parents vont finir par vouloir même se confier à lui et il va développer une amitié avec ses parents. Il est plus facile pour un fils de devenir ami que pour un étranger, n'est-ce pas? Quelqu'un qui est étranger en sens de la maison, de devenir ami. Alléluia. Alléluia. Amen. Le fait d'être l'épouse d'une personne ne signifie pas forcément que je suis l'ami de mon époux ou l'ami de mon conjoint. Amen. Ce sont des choses que nous avons dites et qui sont très importantes. Si vous ne comprenez pas ces préalables sur l'amitié de Dieu, vous allez vous tromper. Vous allez vous tromper. On a parlé aussi de l'attitude de respect et de considération que l'ami a, qu'il y a de manière réciproque entre des amis. Amen. On a fait comprendre aussi que Dieu nous tend la main pour être ses amis. Dieu souhaite qu'on soit ses amis. Tout simplement parce que c'est ce que nous étions. C'est ce que Adam était. Adam et Ève. La Bible dit que tous les soirs, Dieu descendait les voir pour parler avec eux. Alléluia. Ils étaient amis. Amen. Et il n'y avait pas de secret entre Dieu et eux. Donc devant Dieu, ils étaient nus. Il n'y avait rien de caché. Ils étaient ouverts. Dieu les connaissait. Ils connaissaient Dieu. Et c'était merveilleux. Et puis, subitement, ils ont mangé un fruit, le fruit de la connaissance du bien et du mal. Après avoir consommé ce fruit, ils ont commencé à faire des cachotteries à Dieu. Ils se sont cachés, ils ont couvert leur partie intime. Et Dieu demande, mais où vous êtes? Il dit, non, nous sommes nés, on a eu honte. Voilà. Devant un véritable ami, il n'y a pas de honte. Quand il y a l'élément honte qui intervient, c'est que la personne n'a pas atteint le degré ultime de l'amitié. Alléluia. Elle peut être un camarade, même on peut l'appeler même aussi, cette personne-là peut être une amie, un ami, mais pas encore, il y a encore un voile entre cette personne-là et moi. Alléluia. Donc si vous comprenez bien dans tout ce que nous sommes en train de dire, c'est que dans l'amitié, il y a fortement une affaire de voile. Dis avec moi voile. Voile. Et je vous ai dit que le voile, c'est quelque chose qui couvre la vue. Amen. Pas forcément la tête. Le mot voile, c'est lié à la vue, c'est lié à la vision. Amen. Donc, quand je cache quelque chose, il y a un voile entre cette chose-là et les personnes que je ne souhaite pas qu'ils voient cette chose. Donc, quand Dieu fait un mystère, quand Dieu dit je cache quelque chose, ça veut dire qu'il met un voile. Amen. Un voile, c'est pour cacher les choses. Jésus dit à ses disciples, je ne vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle maintenant mes amis, parce que je ne vous ai rien caché, parce que je peux tout vous révéler. Amen. Alléluia. Cette amitié-là est nécessaire. Nous la recherchons depuis toujours. C'est ce que nous recherchons au travers de l'argent. C'est ce que nous recherchons au travers du mariage. C'est ce que nous recherchons au travers de tout ce que la société peut nous apporter. Notre vraie quête réelle, le nom qu'on doit lui donner, c'est l'amitié de Dieu. Ou encore un synonyme, c'est la gloire de Dieu. Dis avec moi la gloire de Dieu. C'est ce que nous avons perdu. Amen. La présence glorieuse de Dieu. Car tous ont péché, Romains 3, 23, et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Donc c'est ce que nous recherchons. Mais nous ne savons pas quelquefois donner un nom à cette quête-là, à cette recherche. Et nous avons expliqué aussi que cette gloire, pour qu'elle soit gloire, ne doit pas s'obtenir facilement. Amen. Si nous l'obtenons facilement, elle n'est pas glorieuse. Tout ce qui a de la valeur dépasse le domaine de la simple demande. Amen. Tout ce qui est précieux, la Bible dit, demandez-le, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Et j'ai dit, tout ce qu'on demande et qu'on reçoit juste après une demande est certes une bonne chose, mais ce n'est certainement pas une chose très précieuse. Tout ce qui est précieux doit se rechercher. Dieu a fait le monde ainsi, pour que l'homme puisse donner de la considération aux choses précieuses. On ne demande pas l'or pour l'avoir, on cherche l'or. On ne demande pas un diamant pour l'obtenir, on cherche le diamant. On recherche le pétrole, on cherche le pétrole. On peut pas le ramasser comme cela. Alléluia. Alléluia. Et ce genre de choses qui sont précieuses et c'est important. Donc la gloire de Dieu, elle est cachée. La Bible dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses dans le livre de Proverbes. Mais la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Donc, nous devenons des rois. Je reviens là-dessus, c'est très important. On a dit que quand nous allons devenir amis de Dieu, Dieu va nous révéler qui sont réellement les enfants de Dieu. Donc, nous atteignons cette révélation-là par l'amitié de Dieu, mais parce que nous découvrons des choses que Dieu a cachées. Alléluia. Donc, le but de notre voyage, c'est de devenir amis de Dieu et que Dieu nous montre certaines choses qu'il n'a pas révélées aux autres. Et lorsque Dieu va nous révéler ces choses-là, dans notre amitié avec le Seigneur, parce que nous sommes amis, nous ne cachons rien, lorsqu'il va nous les révéler, cela va produire un effet dans l'Église et dans le monde entier. Les chrétiens, les amis de Dieu, pas tous les chrétiens. Amen. Ceux qui auront atteint cette dimension vont commencer à se distinguer de manière notable. Ils auront une sagesse supérieure. On a vu les brins de cette sagesse-là dans l'Ancien Testament, où des personnes, sans qu'ils aient fait des cours de sciences naturelles, de biologie ou autres, ont été capables de connaître les lois de la génétique, comme Jacob, ont été capables de connaître la macroéconomie, de savoir comment gérer. Ils avaient une révélation supérieure, à l'exemple de Joseph ou de Daniel. Mais eux, ce n'était que l'ombre des choses à venir. La vérité se trouve en nous maintenant. Amen, amen, amen. Dis avec moi la gloire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, en vérité, on va chercher Dieu. Le cheminement qu'on va prendre, c'est de chercher, trouver Dieu. Mais en fait, non seulement en trouvant Dieu, nous nous trouvons nous-mêmes. Amen. Nous allons découvrir dans l'intimité de Dieu le vrai ministère de Jésus, la réelle raison pour laquelle Jésus-Christ est venu sur la terre. On nous a souvent dit, ce n'est pas faux, que Jésus-Christ est venu pour qu'on aille au ciel, pour qu'on aille au paradis. C'est vrai, mais c'est un peu limité. Amen. C'est un peu limité. Parce que même le paradis final, ça sera sur la terre, une nouvelle terre. Alléluia. Alléluia. En fait, Jésus-Christ est venu pour que nous ayons la vie. La vie, il dit, vous aurez la vie en abondance. C'est, vous savez, quand l'homme a péché, la mort est rentrée en lui. C'est quoi la mort? La mort, c'est un système bizarre. C'est une entité. C'est une entité, hein, c'est comme un esprit qui tue certaines cellules même de l'être humain. Si par exemple, tu pouvais réfléchir 1000 fois que ta réflexion actuelle, la mort vient et elle tue une certaine partie de tes cellules, de tes neurones, elle tue. Et elle t'empêche d'avoir accès à cette sagesse-là, à cette intelligence. La mort tue et limite le corps humain dans son évolution. Les hommes étaient capables, selon l'Ancien Testament, de vivre jusqu'à 900 ans. Mais au fur et à mesure du péché, la mort est entrée. La Bible dit que la mort est entrée. Et donc tout ce qui est sous le joug de la mort périt avant le temps. Donc la mort asphyxie l'intelligence, l'esprit d'une personne, elle tue ses capacités, elle tue le potentiel, elle détruit tout ce que Dieu a mis d'excellent dans la vie d'une personne. Jésus-Christ est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Ce n'est pas d'abord le paradis. Parce que le paradis là, Abraham va y aller, mais Jésus n'était pas encore là. Vous me suivez? La Bible dit, vous serez assis à table avec Abraham, Isaac, Jacob. Donc si c'était seulement pour être avec eux, si c'était seulement cela, on n'avait pas besoin de Jésus. Parce que si tu marchais par la foi, en tout cas à leur époque, les Moïse et autres nous ont déjà dévancés, ils sont auprès du Seigneur. Amen. Il suffisait seulement qu'on nous enseigne ce qu'Abraham a fait. On nous demande de nous comporter comme Abraham pour que nous aussi, nous héritions, nous soyons assis à table avec Abraham. Mais Jésus-Christ est venu après. Ce n'est pas seulement pour nous donner le paradis. C'est pour nous donner la vie éternelle. Amen. Il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront. Donc quand la vie entre, elle va toucher les cellules que la mort avait atteintes. Et elle les régénère. Elle régénère ton cerveau, régénère ton intelligence, régénère tout ton être, régénère ta personne. Quand la vie entre en toi, la maladie n'a plus de place. Alléluia. C'est ce vers quoi nous sommes en train de partir. Mais malgré le fait que nous sommes des chrétiens, nous avons l'impression que nous mourons comme les païens. Quand je dis mourir, je ne parle pas seulement d'aller au cimetière. Parce que le cimetière, là, c'est... bon. Ce n'est que la première mort, mais dans les psaumes, il dit, vous qui êtes des dieux, qui êtes des fils de Dieu, vous mourrez comme des hommes. Alléluia. Amen. Rappelons ce passage. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu es avec moi ce matin? Est-ce que tu es avec le Seigneur? Amen. Lisons rapidement le psaume 82. Au verset 6, hein, prenez vos Bibles, vous n'allez pas l'avoir à l'écran. Au verset 6, il est dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Amen. Et c'est un passage sur lequel je reviens souvent. L'auteur de ce passage dit qu'il y a des êtres sur la terre que Dieu avait appelés fils de Dieu, qui malgré ce nom-là, mouraient comme les hommes. Ce passage nous dit quoi? Qu'il y a des gens sur la terre qui sont appelés fils de Dieu et il y en a d'autres qu'on appelle des hommes. Il y a un groupe qu'on n'appelle plus hommes. Il ne parle pas dans ce passage des anges. Parce que eux, ils ne meurent pas déjà. Il dit, les fils de Dieu meurent comme les humains. Il dit, ils ne devaient pas mourir ainsi. Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. J'ai dit, vous êtes des fils de Dieu. Mais c'est à partir de quel moment on devient fils de Dieu? À partir du moment où on croit en Jésus, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc c'est de nous qu'il s'agit. C'est une prophétie. Il est question de toi. Dieu dit, j'ai dit que tu es ma fille. Mais la mort qui frappe ceux qui ne me connaissent pas là, t'atteint aussi. Les problèmes qu'ils rencontrent sont aussi tes problèmes. Dieu dit que ce n'est pas normal. Parce que depuis l'instant où tu es devenu fille de Dieu, fils de Dieu, il y a quelque chose, une vie qui est entrée en toi, qui fait de toi une espèce supérieure. Jésus-Christ est venu pour différencier sur la terre deux races. Il y a la première race d'où nous étions avant d'avoir cru. Et la seconde race, elle naît, elle apparaît dès l'instant où on croit en Jésus. C'est pourquoi la Bible parle d'une nouvelle naissance. Ce n'est pas une suite de vie. 2 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. C'est-à-dire, Dieu crée quelque chose de nouveau, pas une création améliorée. Si quelqu'un est en Christ, Dieu le crée, Dieu crée une nouvelle chose. Si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création ou encore créature. Nouvelle, ça veut dire quelque chose qui n'a pas encore existé. Donc, toi, après ta conversion, et toi, avant, ce n'est pas la même personne. Alléluia. Pour ceux qui veulent plus là-dessus, prenez l'enseignement sur la nouvelle création. Alléluia. J'en parle. Le pasteur Ivan aussi en a parlé. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, l'enseignement-là nous amène à être ce que Dieu veut que nous soyons. C'est-à-dire des fils de Dieu qui ne meurent pas comme les païens, comme les humains. Amen. C'est ce que Romain décrit en disant, ah, la révélation, la création souffre. Elle attend la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire, les fils de Dieu sont présents, mais on ne les voit pas. On ne les voit pas parce qu'ils ont les mêmes problèmes que ceux qui ne sont pas les fils. Donc, la création, les arbres, la nature attend, soupire que ceux qui ont reçu Jésus depuis des siècles, qui gardent cette grande puissance en eux. La création attend que cette puissance-là se révèle. Sans quoi elle va continuer de souffrir, sans quoi le sida va tuer, la pauvreté va détruire, la mort va continuer à agir sur la terre. La mort est plus dangereuse que le diable. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 15, le dernier ennemi qui sera tué, c'est la mort, pas le diable. Et le chef bandit dans l'histoire, c'est pas Satan, c'est la mort. Apocalypse dit que la mort sera jetée en enfer. C'est une entité. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Le tabernacle que nous avons présenté est le chemin par lequel celui qui est né de nouveau, ou encore même celui qui n'est pas né de nouveau, est le chemin par lequel il atteint cette dimension. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen. Donc, si tu veux rentrer dans cette dimension dont je parle, suis ce que Dieu te dit. Même si tu es chrétien, né de nouveau, il se trouve que tu es à une dimension de ta communion avec Dieu qui fait que tu n'es pas entré dans cette phase. Mais en vérité, c'est un peu comme si Dieu avait retardé la révélation des fils et que maintenant, il y a un processus qui est en marche. L'onction divine, le Saint-Esprit est en action et le temps est arrivé. Alléluia. Et les paroles que je suis en train de prophétiser, de prononcer, vont trouver dans votre cœur une terre fertile. Ça va créer un boom en vous, un boom. Donc pendant que je parle et je dis et je redis ces choses, je suis en train de parler à vos cellules qui étaient encore mortes. Je suis en train de parler à votre corps qui n'a pas compris que il y a une nouvelle création qui est dans un vieux corps. Et cette nouvelle création-là va maintenant se manifester. L'esprit va prendre le contrôle. Alléluia. Je comprends pas pourquoi Jésus vous a appelé fils de l'homme. Vous savez, quand Jésus parle souvent, il dit, le fils de l'homme est venu. Le fils de l'homme. Lorsqu'il est en train de dire fils de l'homme, il est tout simplement en train de faire ressortir la véritable dimension de ce qu'on appelle humain s'ils connaissent Dieu. Il veut dire que ce qu'il est en train de faire en marchant sur l'eau, c'est une promesse qui est destinée aux fils, aux humains. C'est pourquoi, en fait, il faisait ressortir cela. Il dit, non, le fils de l'homme est venu faire ça. Parce que c'est vrai qu'il est fils de Dieu, mais il voulait qu'on réalise que, parce qu'on est des hommes d'une espèce supérieure. Et il dit, bon, voilà, le fils de l'homme peut marcher sur l'eau. Et il marche, il traverse. On dit, ah, ça c'est ton pouvoir. Alléluia. Amen. Tu peux entrer. Alléluia. Bon, il ne faut pas aller te précipiter pour aller sauter sur la lagune. Attends d'être arrivé quelque part. Amen. Alléluia. Et puis, de toute façon, les fils ne font jamais les choses pour se faire voir. C'est très important. Amen. Alléluia. Voilà. Jésus ne marchait pas tous les jours sur les eaux. Le plus souvent, il était en bateau. Amen. C'est une fois, il a marché sur l'eau. Alléluia. On peut aller dire, non, c'est la véritable dimension, je crois. Lagune est brillée, je suis à toi. Amen, amen. Gloire à Dieu. Et cette dimension que je suis en train de décrire et d'expliquer, c'est la dimension où nous sommes appelés à être, que j'appelle la gloire de Dieu, ou encore le Saint des Saints. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes en train de partir, d'aller pour entrer dans cette dimension. Moi, je sème la parole, je prêche la parole. Elle va produire son fruit. Et en son temps, les choses vont commencer à s'agencer. De toute façon, ça ne va pas venir de manière à tomber un feu, brusquement descendre. Puis... Non, ça sera simple. Ça sera sans crier gare. Tu vas te rendre compte subitement que ta connaissance augmente. Tu vas te rendre compte à un moment donné que tu as juste besoin de regarder un livre que tu comprends ce qui est écrit. Tu ne vas pas comprendre. Tu vas te rendre compte que tu comprends facilement ce que les autres ne comprennent pas. Tu vas te rendre compte que ta sagesse est en train de monter. En fait, les cellules qui étaient mortes vont commencer à vivre. Amen. Alléluia. Et puis tu vas à un moment constater que c'est bizarre. On avait détecté un diabète. Tu vas te rendre compte que le diabète n'a pas pu rester, il est parti. Tu vas te rendre compte que les médecins ont dit non, que tu as le sida, tu repars, on regarde, il n'y a plus rien. Parce que la vie a attaqué la mort qui était en toi, à la maladie. Elle va commencer à les toucher. Donc, à un moment donné, tu vas te rendre compte que, en fait, la mort partie, quitter la terre, tu vas te rendre compte que c'est un choix. L'apôtre Paul dit ceci. Il dit, ah, j'ai envie de mourir, j'ai envie d'aller vers le Seigneur, et puis j'ai envie de rester avec vous. Il dit, je fais quel choix? Vous voyez? Il décide. Il décide. Tu vas te rendre compte qu'à un moment donné, la mort ne te surprend pas. Et le jour où tu vas devoir partir, en fait, la Bible dit que ceux qui sont en Jésus ne meurent point. Tu sais que bon, c'est juste que tu quittes une enveloppe pour aller rester auprès du Seigneur. C'est pas que tu es surpris, tu n'étais pas au courant, tu étais dans la voiture, puis une voiture vient te cogner et tu es mort sans comprendre pourquoi. Tu arrives au ciel de manière brusque. Qu'est-ce qui s'est passé?
Non.
Ça veut dire, tu le sais, tu anticipes, tu sais. Tu prends des dispositions. C'est clair dans toi. Ça va devenir limpide. Quelque chose va se passer. Et ça va venir de manière progressive en vous. Alléluia. Alléluia. Et pour y arriver, donc, cette dimension-là, c'est cette dimension qu'on appelle Éden. C'est ce que Adam a perdu. Éden, je l'ai dit la dernière fois, ce n'est pas vraiment un lieu physique. C'est une dimension spirituelle. Amen. Éden était partout. Tant que Adam et Ève étaient dans la gloire de Dieu. Alléluia. C'est ce qu'ils ont perdu. Amen. Il y a des chérubins qui sont devant pour empêcher l'homme de repartir prendre le fruit de l'arbre de vie. Mais Jésus-Christ, en mourant à la croix, parce que l'épée des chérubins, qui est décrite en Genèse chapitre 3, est imagée dans le tabernacle par le voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Me suivez? Alléluia. Lorsque Jésus-Christ est mort à la croix, ce voile-là s'est divisé en deux. C'est tout simplement pour expliquer que maintenant, la gloire de Dieu est à nouveau accessible. Ce qu'on avait fermé du temps de Adam, Jésus-Christ est venu l'ouvrir par sa mort. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est ouvert maintenant. Mais n'empêche qu'il faut quand même y arriver. Il faut grandir pour y arriver. Maintenant, quand tu vas arriver devant, ce n'est plus fermé. Mais il faut arriver devant le voile. Alléluia. Alléluia. Donc, nous avons accès à cela. Amen. Et ça, c'est la dimension du lieu qu'on appelle le lieu très saint. C'est dans cette dimension-là que vous êtes dans le conseil de Dieu. Je l'ai déjà expliqué. Donc, dimanche, on a présenté un peu les différentes pièces, n'est-ce pas? Voilà, le parvis, l'extérieur du parvis, dans le parvis, l'autel des holocaustes, la cuve des reins. Dans le lieu saint, le chandelier, si tu es avec moi encore, la table de pain, après ça, yeah, les gars, on est dans le lieu saint, l'autel des parfums. Mais c'est juste, en fait, il y a d'autres qui ne savent pas trop, donc ils écoutent un voisin, c'est ça qui me fait mal, quoi. Et quand on rentre dans le lieu très saint, quel ustensile qu'on a? Et les gars, l'arche de l'alliance. Donc je reprends. Voici, le voilà à l'écran. Redonnez-moi, s'il vous plaît, l'image du tabernacle. Donc ça, c'est une image physique que Dieu avait demandé à Moïse de représenter, mais qui traduit en fait le chemin que les enfants, que les hommes doivent emprunter s'ils veulent revenir à cette dimension de l'amitié de Dieu, à la dimension de la gloire, à la dimension de Éden. Amen. Et ce chemin-là commence depuis l'extérieur. On peut avoir l'image du tabernacle. À l'extérieur, ce sont les païens. Vous voyez la clôture. Donnez-moi une image plus grande. Moïse a fait concevoir cela. On peut avoir l'image entière. Donc, lorsque Moïse a eu la révélation de faire ceci, on l'a expliqué dimanche dernier, que Dieu montrait à Moïse une image spirituelle. Et maintenant, nous étudions maintenant le vrai tabernacle. Mais il faut regarder l'ancien, celui que Dieu avait fait construire pour comprendre en fait ce qui se passe en nous quand nous cherchons Dieu. Donc, on a ce tabernacle-là. La clôture que vous voyez, toute blanche, n'est-ce pas? Et le rideau d'entrée que vous voyez, donc le rideau là, multicolore, qui est le rideau d'entrée, permettait à ceux qui étaient à l'extérieur d'entrer dans la cour appelée le parvis. Une fois que ces personnes entrent dans le parvis, parce que si tu rentres, ceux qui rentrent dans le parvis sont des personnes qui recherchent à être intimes de Dieu. Mais on ne rencontre pas Dieu dans le parvis. Le parvis est une zone préparatoire pour aller rencontrer Dieu dans la maison, dans la cabane qui se trouve un peu plus au fond de la cour. On est ensemble? Ok. Mais pour pouvoir entrer dans le lieu saint, c'est-à-dire dans la maisonnée qui est dans le fond, il fallait faire ceci. Passer par l'autel des holocaustes, qui est ce que vous voyez dans mon dos là, hein, pour ceux qui sont dans la salle, là, c'est l'autel des holocaustes. C'était comme si vous voulez un grand fourneau où on brûlait les animaux. Mais spirituellement parlant,
Quand tu marches avec Jésus, à un moment donné, tu arrives à ce niveau-là. Lorsque je vais décrire cela, tu vas savoir si tu es encore là-bas ou si tu es descendu de cet hôtel. Ce qui est sûr, on passe par là. Maintenant, il y a des personnes qui n'aiment pas trop le feu qui est là-dessus et ça leur donne un type de comportement chrétien. On va leur expliquer. Et si tu vois que tu ne t'es pas bien laissé brûler et que tu as vite sauté, tu comprends que tu dois revenir. Amen. Pour que Dieu travaille. Parce que tu cours après l'intimité et l'amitié. Donc, une fois que vous avez passé l'autel des holocaustes, quand vous avez passé l'autel des holocaustes, vous avez juste après la cuve des reins. La cuve des reins. Amen. Donc, c'était cette grande cuvette où il y avait de l'eau. Et le récipient même était fait en... Donc, c'était de l'airain ou du cuivre poli. Donc, ça brillait énormément. Et celui qui s'approchait pouvait même se regarder comme dans un miroir. Donc, là aussi, il faut passer. Amen. Et on se lavait le corps avec cette eau. Si tu ne passais pas par cette eau, tu ne pouvais pas avoir accès à ce rideau-là encore. Donc, c'est un autre voile. Donc, on a déjà rencontré un voile. Le premier voile nous faisait entrer dans le parvis. Après le premier voile qui nous fait entrer dans le parvis, on a l'autel des... Après l'autel des holocaustes, on a la cuve des... Voilà. Après la cuve des reins, on rentre maintenant dans le tabernacle ou la tente de la rencontre. Un peu comme le salon de Dieu. Amen. Dieu te reçoit dans son salon. Dieu n'est pas dans la cour. Il vient de temps en temps. Donc, les chrétiens qui sont dans le parvis ont des visites divines sporadiques. Ce sont des chrétiens, mais ils sont visités de temps à autre. Un homme n'habite pas dans sa cour. Un homme est dans sa chambre, il est souvent dans son salon. De temps en temps, il va se détendre dehors dans la cour, mais il n'est pas tout le temps là-bas. Alors, si toi tu habites dans la cour, tu ne le verras. Voilà. Donc, quand tu es chrétien, tu dois passer le rideau. Là, au moins, quand tu es au salon, dès qu'il sort de sa chambre, tu le vois. Maintenant, s'il a envie d'aller dans la cour, au moins, tu l'as vu déjà. Parce qu'il ne peut pas aller dans la cour sans passer par le salon. Le salon, c'est le lieu saint. On va dans le lieu saint. Donc, après, on va passer le rideau. On entre dans le lieu saint. Là, c'est une nouvelle dimension de chrétien aussi. De fils de Dieu. Et c'est là que ça commence à être très intéressant. Amen. Parce que dès l'instant où vous rentrez dans le lieu saint, dans votre communion avec Dieu, comme vous dites, vous entrez dans une nouvelle dimension de votre marche avec le Seigneur. Et là, Dieu est toujours présent avec vous. En fait, Dieu est toujours là. Mais vous le sentez. Dieu est là. C'est dans le lieu saint qu'on commence à vivre ces plusieurs versets de la parole de Dieu. Ça, il commence à être réel pour nous. L'exaucement constant des prières, c'est dans le lieu saint que ça commence. Jésus a dit, demandez tout ce que vous voulez. Cela vous sera donné. Cette phrase-là, elle est vraie. Mais pas trop pour les gens du parvis. Dans le parvis, tu fais 50 prières, 4 sont exaucées. Demande à un voisin. Ce n'est pas ce que tu vis. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez par la foi, vous l'obtiendrez. En toi, quel est le prorata d'exaucement par rapport aux prières non exaucées? Bon, donc soit c'est Jésus qui dit la vérité ou c'est toi. Si Jésus dit la vérité, c'est que c'est toi qui as un problème. Amen. Il faut savoir, parce que sa parole est vraie. Alors, une fois que tu rentres dans le lieu saint, tu changes carrément de dimension. C'est une fois que vous arrivez dans le lieu saint que vous commencez à ne plus être sous les problèmes des païens. Parce que vous voyez, le lieu saint, donc la maisonnée qui est dans le fond, était à l'abri du soleil, à l'abri de la pluie. Celui qui est à l'intérieur ne pouvait pas recevoir la pluie. C'est une image pour expliquer que ceux qui sont dans le parvis, qui sont chrétiens, sont mouillés par la pluie qui mouille les païens. Sont frappés par le soleil qui frappe ceux qui ne sont même pas dans le parvis. Donc il y a une catégorie de chrétiens, si le pays est en crise, ils sont aussi en crise. Si le pays est prospère, eux aussi ils prospèrent. Il y a des chrétiens, s'il y a licenciement général, ils sont toujours licenciés dans la généralité. C'est-à-dire, ils sont pris dans la foule. Mais ils sont chrétiens. Ils viennent à l'église tous les dimanches. Si ta vie est de ce style, il est très fort probable que tu sois quelqu'un du parvis. Tu es chrétien, mais tu es dans le parvis. Tu es né de nouveau, mais tu es dans le parvis. Maintenant, à quelle position du parvis, nous allons voir. Alléluia. Parce que même dans le parvis, il y a beaucoup de lieux. Amen. Ok. Alléluia. Et maintenant, ceux qui sont dans le lieu saint, ils n'ont plus ces difficultés. C'est vraiment là qu'on commence à distinguer les fils. On commence à le sentir. La personne est dans une entreprise, vous sentez la différence. Vous sentez que vous êtes différent. Entre des chrétiens, tu sens que quelqu'un du lieu saint est différent. Il a quelque chose que vous n'avez pas. Ce qu'il touche à une grâce, ce qu'il fait à une faveur. Il a beaucoup de révélations, Dieu lui parle. C'est merveilleux le lieu saint. Soyez là-bas. Alléluia. Donc dans le lieu saint, il y a aussi un cheminement. Il y a le chandelier d'or qui représente le Saint-Esprit avec ses 7 lampes. Et il y a la table de pain des propositions. Les pains représentent la parole de Dieu. Rappelez-vous, l'homme ne livre pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc c'était une table sur laquelle on avait déposé du pain, 12. On avait mis le pain et on partait le manger. Mais c'est la parole de Dieu à la lumière du Saint-Esprit. Ça parle d'une certaine dimension de révélation de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que c'est dans le lieu saint qu'on commence à vraiment comprendre la Bible. Dans le parvis, on ne comprend pas trop. Dans le parvis, tu comprends de temps à autre. Quand le soleil se lève sur les païens et sur toi, c'est là que tu arrives à lire. Lorsqu'il fait nuit, un chrétien du parvis, à des moments, lorsqu'il commence à lire la Bible est lourde. Il ne sait même pas, il dit, Dieu, tu parles de quoi même? C'est très fort probable qu'une personne ainsi soit une personne du parvis. Donc voilà le lieu saint. Chandelier d'or, table de pain de proposition, juste après, ce qu'on appelle l'autel des parfums. L'autel des parfums, que vous voyez dans le fond, est pratiquement dans le lieu très saint. C'est celui qui permet de faire la jonction entre le salon de Dieu, qui est le lieu saint, et la chambre de Dieu, l'intimité, le lieu très saint. C'est cet endroit-là que nous visons, l'Éden. Alléluia. Lorsqu'on entre, on arrive là, dans l'Ancien Testament, ceux qui ont pu atteindre cette dimension, ils sont très rares. Dans tous les prophètes de l'Ancien Testament, vous avez 3 ou 4, il y a certains même qui n'ont même pas prophétisé, dont on n'entend pas les prophéties. Des gens comme Enoch, on ne sait pas ce qu'ils ont dit, mais ce qu'ils ont su, ils ont disparu à un moment donné. Il a atteint une telle dimension. Quand vous lisez le livre de la Genèse, il est question d'un monsieur qu'on appelle Enoch. On dit qu'il a marché avec Dieu, et à un moment donné, il ne fut plus. C'est-à-dire, il a atteint une telle dimension que même son corps ne pouvait plus mourir. C'est-à-dire, il était tout comme un esprit, et puis il est monté vers Dieu. Donc, il peut être là même sur la terre, on ne sait pas. C'est-à-dire, lui, il n'a... Voilà, ce sont des gens qui sont arrivés au lieu très saint avant nous. Parce que, en réalité, c'est au Fils que Dieu réserve la chambre. Amen. Mais il y a des hommes dans l'Ancien Testament qui ont été tellement violents dans leur intimité de Dieu qu'ils ont passé le rideau. Ce n'était pas prévu. S'ils étaient dans le lieu saint, on pouvait s'en contenter. Mais ils sont arrivés dans le lieu très saint, des hommes comme Moïse. Moïse même n'a pas retrouvé son corps. Amen. Voilà. Et ce type de personnes arrivent à un moment donné, c'est comme, ils sont avec Dieu. Et c'est là que j'ai dit qu'ils rentrent dans le conseil de Dieu. Quelquefois, quand vous êtes dans le lieu saint, Dieu peut vous faire le privilège de visiter un peu, quand vous êtes dans le salon de Dieu, de visiter un peu la chambre. Mais c'est rare. Mais les gens du lieu très saint, c'est l'intimité, c'est un peu comme l'épouse, quoi. Elle tape pas trop à la porte pour entrer dans la chambre. Elle vient, elle l'ouvre et puis elle rentre dans la chambre. Parce que c'est sa chambre aussi. C'est ça l'intimité. C'est-à-dire, le secret de Dieu est ton secret. Donc tu entres sans autorisation. Or, quand tu es un visiteur du salon, tu vas taper. Coucou. On dit, qui est là? C'est moi. Mais tu es déjà un bon chrétien, hein? Mais quand même, il y a plein de protocoles. On dit, bon, entre. Le Seigneur, avant de te dire d'entrer, il a tout rangé dans la chambre parce qu'il y a des choses que tu ne dois pas voir. Voilà. Mais la femme, ou l'homme, quand la femme à l'intérieur, elle vient, ouvre la porte. Et puis il est là. Ah, chérie, ça va? Oui. Et puis voilà, c'est sa chambre aussi. C'est ça l'amitié de Dieu. Où Dieu n'a plus rien entre, il n'y a plus rien entre toi et lui. Moi, c'est ce pourquoi je vis. Je vais arriver là-bas, mes frères. C'est lorsque Dieu m'a montré ceci que j'ai dit non, je ne peux pas vite mourir. Il faut que je vive pour atteindre cette dimension. Et je vais y arriver. Je ne suis pas encore arrivé. Mais je vais y arriver, les frères. Qui va aller avec moi? Ah, peut-être qu'il y en a parmi nous qui sont déjà là-bas. Hein? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, voici notre quête. Et ça, c'est la réelle recherche de l'homme. Maintenant, avec Jésus-Christ, c'est devenu facile. Avant, c'était très compliqué. Mais maintenant, avec Jésus, c'est devenu facile. Dis à un voisin, c'est facile. Tout ce que ça prend, ça peut te prendre un peu quelques années. Mais sinon, c'est pas compliqué. C'est juste le temps de faire grandir ta maturité. Amen. Voilà. Un enfant, tu ne lui montres pas certaines choses parce qu'il est tout simplement un enfant. Donc, normalement, avec le temps, plus tu comprends les choses de Dieu, tu es censé y arriver correctement. Mais ce qui est mauvais, c'est lorsque tu as la maturité et que tu n'y accèdes pas parce que tu n'as pas développé la relation qu'il fallait avec ton Créateur, avec ton Seigneur. Amen, amen. Amen. Pour entrer dans le lieu très saint, la chambre de Dieu, il y a trois petites choses qui vous aident. J'appelle les trois clés. On va les étudier. Peut-être que je les développerai encore plus tard. Mais il y a trois petites choses qui vont nous aider lorsqu'on va arriver à ce niveau. On a l'adoration, ce que j'appelle l'admiration de Dieu. La deuxième chose, l'amour du prochain. La troisième chose, la révélation de Christ. C'est-à-dire, si tu es un croyant qui est arrivé au lieu saint, ce qui te fera entrer dans Éden, dans la gloire du lieu très saint, c'est l'adoration. C'est quoi l'adoration? Elle était représentée par l'autel des parfums. L'autel des parfums, c'était aussi un autel où il y avait du feu qui brûlait des parfums. Et le parfum montait, comme on dit, aux narines de Dieu, et c'était un parfum d'une agréable odeur. C'est le symbole de l'adoration. Dis avec moi l'adoration. Mais mes amis, il y a adoration et adoration. Il y a adoration du parvis, il y a adoration du lieu saint, il y a adoration même de derrière la clôture chez les païens. Les païens aussi adorent Dieu. Les païens aussi croient en Dieu. Croire que Dieu existe, ce n'est pas avoir reçu Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Tu es un croyant, tu fais ta religion, mais tu n'as pas pris le chemin du tabernacle. Tu n'as pas pris le chemin du tabernacle. Il faut l'emprunter. C'est un chemin précis. C'est la vie de Jésus. C'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est le seul chemin qui donne la vie. La religion ne donne pas la vie. La religion va te donner une bonne attitude. Si Dieu te fait grâce, peut-être que tu peux même peut-être voir le paradis. Mais, le salut, la vie éternelle ne se trouve qu'en Jésus. C'est ce chemin-là que Jésus-Christ est venu donner. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Sinon, nos parents, pendant qu'on n'avait pas encore parlé de Jésus qui était ici, s'ils vivent en conformité à leur conscience, dans l'honnêteté, dans la droiture, ils iront aussi au paradis. Mais, sans avoir eu la vie éternelle, la vie Zoé, là, ils n'ont pas eu cela. La Bible en parle dans le livre de Romains, chapitre 1. On n'avait pas encore prêché Jésus. Vous pensez que tous ceux qui étaient en Afrique ici, quand on n'a pas parlé de Jésus, ils vont partir en enfer? Ils n'iront pas en enfer. Il y a parmi eux des gens qui iront aussi au paradis. C'est pourquoi, comprenez bien le ministère de Jésus. Jésus n'est pas venu pour nous donner le paradis. Le paradis fait partie. Mais c'est plus profond. Il y a quelque chose que nos parents qui n'ont pas entendu parler de Jésus n'ont pas eu. Il y a quelque chose que d'autres personnes qui vont aller au paradis n'ont pas connu. C'est ce que Jésus-Christ est venu nous apporter. Quand vous lisez Romains chapitre 1, il est dit que ceux-là à qui l'évangile n'a pas été annoncé seront jugés en fonction de ce que Dieu leur a dit. Parce que la perfection de Dieu, Dieu se voit. Le caractère de Dieu. Est-ce qu'on a besoin d'entendre l'évangile pour savoir qu'il ne faut pas voler? Non. Donc il y a des gens qui sont honnêtes, qui sont corrects, qui n'ont pas entendu parler de Jésus. Je n'ai pas envie de dire qu'ils seront sauvés parce que ce n'est pas ça le salut. Ils ne sont pas sauvés. Parce que le sauvé, là, c'est sorti de la mort. Parce qu'on a devenu, on dit, croire au Seigneur Jésus sera sauvé. Mais nous, dans le mot sauvé, on a inclus seulement le aller au paradis, être avec Abraham. Là. Ça, c'est donné à beaucoup. Il y a d'autres personnes qui iront. Mais le salut dont Jésus parle, c'est nous sauver de la mort qui était rentrée dans le corps de Adam et de Ève lorsqu'ils ont mangé le fruit. C'est nous délivrer. Nous sauver de la mort pour qu'on ne soit plus assujetti au déshéritage du diable. C'est-à-dire, nos parents, malgré leur honnêteté, Satan les maltraitait. malgré leur droiture, le diable les rendait malades, il y avait plein de problèmes. Mais nous qui avons connu Jésus, nous ne devons plus être sous cette domination. Amen. Amen. Alors donc, ce qui nous permet d'entrer dans le lieu très saint, c'est l'adoration. Mais c'est quelle adoration? C'est une adoration, vous allez le comprendre. La Bible dit ceci, Romains, chapitre 1, verset 20. Vous voyez, il y a une adoration dont parle David. Vous pouvez trouver dans les psaumes. Quelquefois, c'est ça avec quoi j'essaie de coacher un peu les chantres. Et ma prière est que Dieu nous aide à comprendre. Vous savez, quand vous voyez David en train de dire, j'entends les océans mugir, les fleuves font monter leur clameur, on pense que ce sont des métaphores. Lorsqu'il décrit, on pense que non, c'est... Il dit, tous les matins, les oiseaux chantent ton nom. On se dit, non, que sont les cui-cui-cui, là, du matin, là. Tout ça. Nous, on l'interprète comme ça. Mes amis, c'est plus que cela. Alléluia. L'adoration, en fait, l'adoration de Dieu, n'est pas basée simplement sur des simples mots qu'on prononce. Mais elle vient. Donc, l'adoration, c'est le symbole de l'autel des parfums. Amen. Qui nous permet d'entrer dans le lieu très saint. Elle vient d'une profonde contemplation des choses que Dieu a faites. C'est-à-dire, en fait, tu es là et puis tu regardes la plante. Et chaque fois, comment tu vois la façon dont tu vois la plante se comporte, tu finis par dire, non, Dieu est excellent. En fait, c'est de l'admiration. C'est de l'admiration qui vient en regardant les œuvres de Dieu. C'est ce qui crée cette forme d'adoration. C'est-à-dire, lorsqu'on fixe vers lui le regard, on est transformé en la même image de gloire en gloire. Mais on fixe le regard sur le Seigneur comment? Le Seigneur est un esprit. En fait, il dit on est transformé en la même image de gloire en gloire. C'est-à-dire, on devient de plus en plus parfait en regardant Dieu. Mais Dieu n'est pas physique. On le regarde en regardant ses œuvres, en fait. Alors David est là, il observe la mer. Et à un moment donné, il commence à entendre dans les vagues un chant. Et vous savez, quand David écrit les psaumes, tous les psaumes traduisent la vie de Jésus. Ce sont des prophéties. Il est là et puis il décrit quelque chose. Après, Jésus raconte, il dit non, pour accomplir ce qui était écrit. Mais le monsieur est en train de chanter. Il a pris sa cithare, il a commencé à jouer. Et en même temps qu'il est en train de louer, il décrit le futur de l'humanité. Il décrit les choses. Est-ce que ce sont les chansons qu'on chante là? Sans prophétie là-dedans. On dit, mon frère, chantons. Alléluia. C'est bien. Mais pendant que tout le monde fait Alléluia, il y a Alléluia par visa du parvis. Il y a Alléluia. Quand il dit par visa, ce sont les gens du parvis. On ne dit pas les mêmes choses. Amen. On ne dit pas les mêmes choses. Vous voyez, regardez ça. Tout le monde dit Dieu est puissant. C'est vrai, non? Dieu est puissant. Maintenant, tu vas à un endroit où tu vois quelqu'un qui a le pied coupé. Et on prie et le pied pousse. Et ça devient... Et toi et un autre frère, vous rentrez dans l'église. Lui dit, Dieu est puissant. Toi, quand tu as fini de voir le miracle, là, quand il dit Dieu est puissant, lui, il ne sait pas de quoi tu parles. Alléluia. Il dit, vous dites les mêmes choses, c'est le même mot, mais vous ne dites pas les mêmes choses. Parce que lui, quand il dit, mon frère, Dieu, il est puissant. Toi, tu vas lui répondre, frère, oui, Dieu est puissant. Et quand tu as connu cette chose, tu dis Dieu est bon. Et quelqu'un qui aussi qui lève va dire oui, qui est comme Dieu? Il est bon, il est bon. Mais vous, ce qu'il a vu, et puis il a dit Dieu est bon. Et ce que toi tu as vu, c'est une différence. Amen. Alléluia. Alors, le degré de l'adoration est fonction, pas des mots, mais de ce que les personnes ont vu avant d'utiliser le mot. C'est ça qui fait la différence. Et c'est ce que j'ai dit au chant. J'ai dit, qu'est-ce que tu vois? Il ne s'agit pas de dire ta grâce m'a... Mais attends, tu parles de quoi? Parce que dans l'adoration, on passe les voiles en comprenant, en découvrant ce qui est en train d'être dit. On ne dit pas les choses de la même manière. On peut tous prosterner. Mais quelqu'un qui a été visité dans la semaine, où Dieu l'a sorti d'un accident, lorsqu'il est en train de célébrer, vous deux, vous pouvez être prosternés, mais vous ne dites pas les mêmes choses. On chante le même chant, mais on ne chante pas le même chant. Amen. Et c'est ça qui fait la différence. Alléluia. Donc, parce qu'en ce moment-là, le vocabulaire est limité. C'est parce que la personne n'a pas un plus grand mot que puissant, qu'elle utilise ton mot, le même mot que toi. Mais vous ne dites pas les mêmes choses. Le sens. Alléluia. Et c'est cela. Alors les David, ce sont des personnes, pourquoi leur adoration touchait Dieu? Pourquoi est-ce qu'ils ont pu décrire des choses intouchables, inavouables, qui révélaient les secrets de Dieu? C'est parce que ils prenaient le temps d'observer Dieu dans ses œuvres, d'observer le détail. Mes amis, c'est cette ce que j'appelle l'admiration. À force d'observer, la Bible dit dans Romains chapitre 1, verset 20, que, écoutez-moi bien, les perfections invisibles de Dieu, le lieu très saint, c'est la perfection. Jésus a dit ceci, soyez parfaits comme votre Père est parfait. On peut être parfait. On peut entrer dans le lieu très saint. C'est ce que Jésus a dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Moi, je crois en la perfection. Je sais que c'est possible. Alléluia. Maintenant, on dit, mais c'est quoi la perfection? Il dit non, que lorsque tu fixes les regards sur Dieu, tu es transformé en l'image de Dieu, de gloire en gloire. Mais en fait, tu fixes quoi? Tu fixes ses œuvres. Tu fixes, la Bible dit ses œuvres. La perfection, là, elle est dans tout ce que Dieu a fait. Mes amis, oh, je vais vous dire des choses, mais tout ce que Dieu a fait parle de lui. Tout. Tout. Tu fais sens naturel. L'essence naturelle parle de Dieu. Quand tu étudies le corps, la naissance d'un enfant, si tu prends le temps et que tu admires, ça dit, il ne faut pas regarder, parce que les scientifiques, eux, ils sont corrompus, les païens. Ils regardent, pour eux, il faut étudier pour soigner les gens. Qui est l'auteur de ce mécanisme-là? Donc, tu dois regarder avec admiration. Ils prennent du temps, ils vont regarder des petits tableaux que les gens ont peints, et puis ils sont là. Excellent. Mais regarde, regarde. Quoi? Dessin. On ne sait pas, André, on a craché sur un tableau là. Mon frère, regarde la création. Regarde les feuilles, regarde les feuilles. Alléluia. Regarde, et puis, assieds-toi, 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 et puis étudie. C'est cette adoration-là. Ça va vous choquer, mais vous ne pouvez pas la voir. Écoutez-moi. Venez à l'église tous les dimanches chanter Dieu. Mais vous ne pouvez pas rentrer dans le lieu très saint si vous contentez de rester entre quatre murs. Dieu, écoutez-moi, il est dans vos activités de tous les jours. Dieu est dans la façon dont, si vous êtes ferronnier, dans la façon dont vous admirez la façon dont Dieu a conçu le fer. Si vous observez, vous aussi vous écrirez un psaume pour parler comment le fer chante Dieu quand on le frappe. Tout ce que Dieu a créé, tout révèle sa perfection. Tout ce que Dieu a fait, la musique, les plantes, la nature, le corps humain. L'homme ne peut pas posséder Dieu. Alors, le Seigneur te met sur une voie dans ta vie. À un moment donné, donc, tu as la vie, tu chantes, tu danses à l'église. Et puis, tu as senti que ta vie chrétienne va stagner. En réalité, en fait, ce que tu dois découvrir de Dieu, là, tu es en train de... Tu fais mal ton... En fait, j'ai parlé du travail récemment. Tu ne travailles pas comme tu dois travailler. Il y a une adoration que tu ne peux pas avoir si tu n'admires pas Dieu, même dans la maçonnerie. À un moment, tu n'auras plus de mots. Tu vas être là, tu vas chanter « Alléluia, Dieu est bon, il est bon, il est bon. » Si tu prends le temps de comprendre les choses, de les observer, de fixer les regards en cherchant Dieu. Hein, notez toujours Romains 1, 20. La Bible dit la gloire de Dieu. Les perfections de Dieu se voient à l'œil nu dans les choses qu'il a faites. Romains chapitre 1, verset 20. Donc si je regarde la perfection de Dieu, moi-même, je deviens parfait. Lorsqu'on fixe vers lui les regards, Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Vous savez, nous négligeons les choses. Nous croyons que non, Dieu, on va venir, on va chanter, on va danser seulement. Mais à un moment donné, la révélation est bloquée. Alors David est parti. Regardez, regardez, je prends un psaume comme ça. Le psaume 19. On va finir notre moment. Il a dit, les cieux racontent la gloire de Dieu. Tu penses que c'est une image? Le monsieur a observé le ciel. Et il a regardé les nuages. Il dit, le nuage qui vient comme ça, il est en train d'expliquer que Dieu est glorieux. Donc, quand David voit la gloire de Dieu, il ne dit pas de la même manière que toi. Il dit, les cieux racontent. On pense que c'est un poème, c'est une poésie. Il ne parlait pas pour parler, mon frère. Il te dit que le ciel a un langage. Que la nature parle. Que tout ce que Dieu a fait parle. Dieu a une voix. Mes amis, les objets ont des oreilles. Mais c'est voilé aux yeux des hommes. Nous les voyons juste comme des choses inertes. Mais Dieu dit, alléluia, que ce qu'il a créé là, attend que les fils de Dieu aient la révélation. Il faut que les fils de Dieu comprennent. Pourquoi Jésus a parlé à l'arbre? Rappelez-vous, la Bible dit qu'il est arrivé et il a parlé. Il dit ces paroles. Il dit, s'il y a une montagne qui est devant toi, il dit, si tu dis à la montagne va t'écouter. Lorsque Jésus était dans la barque, le vent s'est mis à souffler. Les gens pensent que c'est un phénomène naturel. La Bible dit, Jésus a parlé au vent. Il n'a pas prié Dieu pour que Dieu arrête le vent. Il a dressé, il dit, vent. Parce que le vent a des oreilles. Le vent a une voix. Mais l'homme naturel ne sait pas de quoi on parle. Lorsque je dis que la science va vous révéler, les choses vont vous révéler. Et c'est là que la sagesse des enfants de Dieu va passer nos dimensions. Tu vas prendre un objet. Tu vas dire, dis-moi. La feuille que tu vas tenir va te dire que moi, là, je soigne le cancer. Que quand les phénomènes qui créaient sont arrivés, Dieu m'avait envoyé. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ, avant qu'on ne pêche même, il était mort pour nos péchés avant la fondation du monde. C'est-à-dire, Dieu a déjà placé la solution des problèmes qui ne sont pas encore arrivés. Mais tous ces problèmes, toutes ces solutions existent. Elles ne sont pas révélées. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Si on continue, lisez le psaume 19, mais dans la version 8 secondes, on voit pas bien la chose. Il a dit, le jour en instruit un autre jour. La nuit donne connaissance à une autre nuit. C'est ici que vient le prophétique. Il dit que, David révèle que, en fait, si tu admis Dieu dans le jour, tu vas savoir ce qui va arriver les autres jours. Tu le sais. C'est-à-dire, quand tu écoutes le jour parler, il va te dire ce qui va arriver demain, après-demain. Et c'est là que les fils de Dieu qui vont découvrir ces choses seront capables d'anticiper, de prévoir, que ce soit l'économie. Ils auront de l'avance sur tout. Parce que le jour parle. Le jour, David révèle que, il dit, faites attention, le jour qui est là, là, il te dit exactement ce qui va arriver dans ta journée de lundi. Mais tu traverses le jour. La Bible dit, Dieu, là, sa perfection, c'est à l'œil nu. Si tu sais considérer ce qu'il a fait. C'est ça l'autel des parfums. L'autel des parfums, c'était l'admiration de Dieu. Ce n'était pas la simple adoration, ce n'était pas chanter Alléluia. Non, c'était quelque chose de supérieur. C'est ce que les David faisaient. Amen. Et pour être capable d'écrire des psaumes comme ça. Et puis regardez, verset 4. Ah, je veux ça dans une autre version. Amen. Bon, en tout cas, j'aime ce message. Hein. Ça m'aide moi-même. Psaume 19, verset 4, il dit, ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, on n'entend pas leur son. Cependant, leur voix parcourt toute la terre. Il dit, le jour en instruit un autre, la nuit donne l'instruction d'une autre nuit. Il dit, mais ce n'est pas un langage comme on entend. C'est ce qu'il dit. Il dit, ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles. On n'entend pas leur son. Cependant, leur voix parcourt toute la terre. Leurs discours vont jusqu'aux extrémités du monde. Alléluia. Alléluia.
Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen.
Donc l'admiration de Dieu, l'adoration. Deuxième chose qui vous permet d'arriver dans le Très-Saint, l'amour du prochain. Amen. Troisième chose, la révélation de Christ. C'est pourquoi je dis l'amour du prochain. Si vous lisez Matthieu 5, 48, il est dit, votre Père céleste est parfait, soyez donc parfait comme lui, version semeur. Et j'ai essayé d'étudier, je vous ai dit que le lieu très saint, c'est la perfection. Amen. Donc on a vu tout de suite que l'admiration, l'adoration, nous permet de devenir parfait comme Dieu. L'amour du prochain nous donne aussi cet accès-là. Matthieu 5, 48 dit, votre Père céleste est parfait, soyez donc parfait comme lui. Et lorsqu'il explique, on peut remonter maintenant au verset 43, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Verset 45, ainsi vous vous comporterez vraiment comme des fils de votre Père céleste. Car lui, il fait luire son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons, et il accorde sa pluie à ceux qui sont justes comme injustes. Et puis, il dit, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre à une récompense pour cela? Verset 47. Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? 48. Votre Père céleste maintenant est parfait, soyez donc parfait comme lui. Ce passage est très fort. Jésus nous révèle la clé de la perfection. C'est-à-dire comment on y arrive. Je vous ai expliqué, et je finis avec ça, je vous ai expliqué la dernière fois que, en vérité, le tabernacle que j'ai décrit est en nous. Amen. Dis avec moi, il est en moi. Le cheminement se passe en moi. Je découvre Dieu en moi. La Bible dit ceci, que c'est la gloire que nous recherchons, n'est-ce pas? Mais la Bible dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc Jésus est entré en nous par la foi en Jésus. Et il nous donne maintenant accès à la gloire. Mais c'est une espérance qu'il faut prendre. Amen. Alors, qu'est-ce qui m'amène progressivement vers la perfection? Ce n'est pas quelque chose d'extérieur, à part l'admiration que j'ai pour le Seigneur. C'est mon combat intérieur pour aimer et être patient et être doux envers tout le monde. Et il explique ceci. Il dit, ah, attention, si tu manifestes les attitudes d'amour vis-à-vis seulement de ceux qui te font le bien, tu n'es pas différent de païen. La question qu'il pose, il dit, est-ce que tu penses que tu seras récompensé pour cela? Non. Il dit, tu dois faire quelque chose de plus. Qu'est-ce qui permet, qui facilite l'accès au lieu très saint? C'est le travail que vous faites sur vous-même pour faire tomber le voile de l'indifférence. Avant d'entrer dans cette dimension, il est fort que vous connaissiez de très fortes vexations et des frustrations de la part des hommes. Ne cherchez pas Dieu dehors. La victoire que vous allez avoir là-dessus va vous faire avancer. C'est-à-dire, Dieu dit, celui qui t'a fait du mal, regarde-le et cherche son bien. Mais ça, c'est un combat en interne. Parce que quand tu le vois, ton visage, Seigneur, je ne peux pas. Moi, j'en suis conscient. Hein? Vous êtes certain avec la crise de la Côte d'Ivoire, on est vraiment au bon endroit. Parce que avec tout ce qui s'est passé, plusieurs sont susceptibles de haïr et de détester. J'ai dit, mais Seigneur, je priais, je dis, mais Seigneur, tu dis que le pays va rentrer dans la gloire. Mais c'est maintenant même, c'est vrai, il n'y a pas de... Parce qu'on parlait de la population, on parlait des frères. Mais les cœurs sont divisés. Les gens se regardent avec méfiance. Est-ce que c'est ce que tu nous avais dit? Dieu me dit non. Il dit, mais c'est cette étape-là qui va susciter mes fils. Je dis comment? Il dit, avant ils étaient chrétiens, ils n'avaient pas d'ennemis. Or, c'est l'ennemi là. L'ennemi que tu arrives à aimer, qui te rend parfait. Il dit, amen. Donc Jésus commence l'histoire. Il dit, soyez parfait comme vos pères. Parce que le verset 48. Ah, tu dis, je vais être parfait. Maintenant, il dit, il faut remonter. Écoute de quoi je parle. Il dit, si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, est-ce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire? Non. Il dit, les païens ne font pas la même chose. Il dit non. Il dit, si vous faites comme ça, il n'y a pas de récompense. Mais où on gagne? C'est lorsque vous arrivez à prier, à aimer, à faire du bien, à rechercher le bien de celui qui vient de vous arracher quelque chose, de celui qui vient de vous faire mal. Alors, je dis, Seigneur, mais la gloire qu'on a vue, il dit non, la gloire de la Côte d'Ivoire, il ne faut pas d'abord l'argent. C'est certain, l'argent va venir. Mais il faut que des fils se révèlent. Et ils vont se révéler par leur capacité à surmonter l'époque, la période difficile que leur famille, leurs proches, quand tu as perdu un proche, tu as perdu quelqu'un. Et ces choses-là te sont arrivées. Les païens, ici, là, ils vont être déclassés. C'est là qu'on les laisse au dehors du parvis, quoi. Et puis, c'est là que Dieu fait la distinction. Et puis, il sélectionne ceux qui vont être dans la perfection, ceux qui vont s'élever. Il m'a tué, il a pris ceci, il a fait cela. Mais je l'aime. Que Dieu le bénisse, que Dieu le pardonne. Seigneur, souviens-toi de lui. Alléluia. Amen. Et la troisième chose, j'en parlerai pas aujourd'hui, qui vous est entrée dans la perfection, c'est la révélation de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai commencé par le lieu saint, le lieu très saint. Aujourd'hui, je vais décrire brièvement dimanche prochain le lieu saint. Et puis, dimanche prochain, par la grâce de Dieu, on va commencer à prendre le chemin depuis l'extérieur. Donc, que chacun s'apprête. Ouais, Dieu va te parler. Si tu es dehors, au moins entre dans le parvis. Si tu es arrivé dans le parvis, va au feu de l'autel des holocaustes, laisse-le te travailler. Si tu te rends compte que tu es vite descendu, que tu t'es monté un jour, mais comme ça t'a brûlé, tu as vite sauté, dis Seigneur, pardonne-moi, ressaute dans les flammes. Ceux qui sont arrivés aux environs de la cuve des reins, qui ne se sont pas rincés, donc il y a encore les cendres sur eux, rincez-vous. Amen. Ceux qui, après le feu ou avant le feu, ont fui pour aller vers la clôture, pour essayer de passer de l'autre côté, redescendez de la clôture, venez, on va aller chercher Dieu. On va très loin, on va très loin. Que Dieu vous bénisse et que sa parole porte du fruit dans nos vies. Prions le Seigneur. Merci Père. Riando bodo shatari de bros karababa yandara davros reba sharababa yantala damos. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Une des choses sur lesquelles le Saint-Esprit insistait ce matin, la dernière chose, c'était cette admiration de Dieu. Apprendre à contempler Dieu par les œuvres qu'il a faites. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous a inspiré ce programme d'adoration des mercredis. Touch. Adoration, adoration. Le Seigneur nous a décrit aussi le parvis. Et déjà, avec cette vue générale, tu peux sentir déjà quelle est ta position. Si tu sais que tu es à l'extérieur, fais la paix avec le Seigneur. Donne-lui ta vie. Nous avons parlé du lieu très saint afin de créer en toi l'admiration et le désir d'y aller. C'est possible. Ne dis pas que cela, c'est pour les autres seulement. C'est pour toi. C'est ta vraie quête. C'est ce que tu recherches profondément. Merci Père pour tes bienfaits. Merci pour ta parole qui donne du fruit à nos vies. Que ton nom soit glorifié au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.
Si ce message vous a édifié, procurez-vous d'autres messages sur des thèmes tout aussi enrichissants. Au revoir et à un autre message.